Vous écoutez RFI, la radio du monde, il est 21h en temps universel et à Bamako, la ville d'Olivier Dubois et de Thomas Sidibé, 22h à Paris. Et le journal est présenté par Christophe Paget. Bonsoir Christophe.
Bonsoir Claudicia, bonsoir à toutes et à tous. À la une de ce journal, la fin de la réunion de crise des Européens à Paris. Objectif, afficher un front uni après le début de dialogue sur l'Ukraine entre le président américain Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine. De fait, demain mardi, des délégations de haut niveau venues de Washington et de Moscou se rencontrent en Arabie Saoudite pour, entre autres, parler de l'Ukraine. À suivre la correspondance d'Anissa El Jabri. À Paris, toujours premier jour du procès de membres du groupe État islamique accusés d'avoir été les geôliers de journalistes français en 2013. Un des accusés, Mehdi Nemouche, a déclaré dès l'ouverture de l'audience « Je n'ai jamais été le geôlier de quelque otage que ce soit ». En RDC, comme le président du Burundi, celui du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, dit craindre une guerre régionale. Hier, les rebelles du M23 et les éléments de l'armée rwandaise ont pris le contrôle de Bukavu, la capitale du Sud Kivu. Bukavu, la situation était relativement calme aujourd'hui, après les pillages de ce week-end. La réunion d'urgence de dirigeants européens, ce lundi à Paris, a réaffirmé que l'Ukraine mérite la paix par la force, une paix respectueuse de son indépendance, de sa souveraineté et de son intégrité territoriale. C'est ce qu'a déclaré la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, sur X. Le premier ministre britannique, Keir Starmer, a de son côté appelé les États-Unis à fournir une garantie de sécurité en Ukraine, jugeant que c'était le seul moyen de dissuader la Russie d'attaquer à nouveau le pays. Ce mini-sommet de Paris avait été organisé à la hâte par le président Emmanuel Macron, après le coup de fil la semaine dernière entre les présidents américains et russes, qui avait donné l'impression aux Européens que Donald Trump et Vladimir Poutine allaient négocier entre eux la fin de la guerre en Ukraine. De fait, ce lundi, le Kremlin a confirmé ce dont tous les médias russes parlent depuis plusieurs jours. Demain mardi, des délégations de haut niveau venues de Washington et de Moscou se rencontrent en Arabie Saoudite pour, entre autres, dit le Kremlin, parler de l'Ukraine. Autrement dit, commencer à mettre en place le cadre pour débattre de l'Ukraine sans l'Ukraine et sans les Européens de la plus grande guerre sur le vieux continent depuis 1945. À Moscou, Anissa El Jabri.
Signe que la Russie prend au sérieux ses premiers échanges, seront officiellement présents à Riyad le chef de la diplomatie russe et le sherpa diplomatique du Kremlin sur la table. Le rétablissement du fonctionnement habituel des canaux diplomatiques officiels entre Moscou et Washington, avec à la clé sans doute un engagement à la fin des expulsions croisées, la réouverture de consulats, par exemple le russe à San Francisco, l'américain à Saint-Pétersbourg. Bien sûr, il s'agit aussi de préparer une rencontre au sommet Trump-Poutine, sans doute en mars. D'ores et déjà en Russie, certains vont même jusqu'à imaginer un assouplissement très proche des sanctions. La question a été posée ce lundi au porte-parole du Kremlin. Voici sa réponse.
Nous n'avons pas vu de rapport faisant état d'un retour des marques occidentales à Moscou, mais le fait qu'elles puissent revenir sur une base compétitive pour continuer à concurrencer les fabricants russes serait une pratique commerciale mondiale tout à fait normale. Une telle concurrence serait dans l'intérêt du consommateur, c'est-à-dire de vous et moi.
D'autres se voient déjà dicter leurs conditions au retour en Russie de Visa et Mastercard. En Russie, on jubile de plus en plus ouvertement, sans jamais afficher sur quel sujet on pourrait bien faire un compromis. Anissa El Jabri, Moscou, RFI.
Direction maintenant le Liban. Selon l'accord de cessez-le-feu, Israël était censé avoir achevé le 26 janvier son retrait du sud Liban. L'échéance avait ensuite été repoussée au 18 février, demain donc. Mais ce lundi, un porte-parole de l'armée israélienne a annoncé le maintien de troupes sur 5 positions dans le sud Liban, de manière temporaire, afin, dit-il, de continuer à défendre nos habitants et de manière à nous assurer qu'il n'y a pas de menace immédiate. Avant cette annonce, le président libanais Joseph Aoun avait appelé les garants de l'accord, notamment les États-Unis et la France, à faire pression sur Israël. « Je n'ai jamais été le geôlier de quelque otage que ce soit », déclaration ce matin de Mehdi Nemouche, au premier jour du procès des geôliers présumés du groupe État islamique à Paris. Mehdi Nemouche, déjà condamné à la perpétuité pour l'attaque du musée juif de Bruxelles en 2014, et accusé d'avoir été le geôlier de 4 journalistes français détenus pendant près d'un an, en 2013, par le groupe djihadiste État islamique en Syrie. En France, toujours, un avocat demande l'ouverture d'une enquête pour entrave à la justice dans l'affaire du viol commis en 1998 dans l'établissement de Bétaram. Hier, un ancien gendarme avait évoqué sur TF1 une intervention de François Bayrou auprès de la justice de l'époque. Samedi, le Premier ministre avait rencontré des victimes de Bétaram. Il a défendu son action lorsqu'il était ministre de l'Éducation et promis des moyens supplémentaires aux victimes. La guerre dans l'est de la RDC, après le président du Burundi, c'est au tour de celui du Congo-Brazzaville d'exprimer ses inquiétudes. Denis Sassou Nguesso dit craindre une guerre régionale. Hier, les rebelles du M23 et les éléments de l'armée rwandaise ont pris le contrôle de Bukavu, la capitale du Sud Kivu. Une occupation confirmée et dénoncée par le gouvernement congolais à Kinshasa. Plusieurs chancelleries occidentales ont aussi condamné l'occupation de la ville, où la situation était relativement calme aujourd'hui. Mais ce week-end, il y a eu des pillages à Bukavu. Pillages de magasins, de boutiques, mais aussi de stocks d'aide humanitaire de certaines ONG, comme à Goma, au Nord Kivu. C'est évidemment un problème pour tous ceux qui en ont besoin. C'est aussi un défi pour les organisations humanitaires, car le transport de l'aide via les aéroports qui desservent Goma et Bukavu est encore inenvisageable. François Morillon, chef de délégation du Comité international de la Croix-Rouge, basé à Kinshasa.
Très malheureusement, un certain nombre d'acteurs humanitaires ont été affectés, notamment dans des stocks de nourriture, ce qui va évidemment représenter un enjeu important dans les semaines et mois à venir, puisque ces stocks étaient absolument nécessaires à la prise en charge des populations déplacées ou retournées d'ailleurs. Donc ça va être un enjeu important parce que il est difficile de repourvoir ce type de capacité. Là, il va falloir travailler avec les pays voisins pour voir acheminer. Nous, par exemple, nous avons pu redoter nos stocks à Goma qui avaient été pillés en médicaments et nous avons tout envoyé depuis Nairobi par camion. Donc là, il va falloir que les acteurs s'organisent afin d'être en capacité de répondre de manière adéquate aux besoins. Mais encore une fois, ceci ne sera possible que si la situation se stabilise et elle reste encore trop volatile à l'heure où je vous parle.
François Morillon, joint par Amélie Tullet. En Haïti, un militaire a été tué et deux autres blessés hier à Quinscoff, sur les hauteurs du Port-au-Prince. Les gangs haïtiens maintiennent la pression sur cette commune stratégique puisque l'un des derniers verrous avant la zone verte qui abrite le siège du gouvernement d'Haïti, les institutions internationales et le quartier des ambassades. Vincent Souriau.
Une commune privilégiée en Haïti, peuplée de maisons cossues et d'hôtels de luxe, refuge des élites haïtiennes qui viennent en villégiature, traîner entre les chalets, flâner dans les boutiques et danser au bal. C'est aussi un carrefour stratégique en raison de son altitude, 1500 mètres de haut, avec ses collines boisées. Quinscoff domine la baie de Port-au-Prince. Si les gangs s'en emparent, ils auront l'avantage du terrain, une vue plongeante sur les renforts de police qui voudraient rejoindre cette zone pour défendre la capitale et protéger son approvisionnement. Enfin, c'est le dernier échappatoire. Les groupes armés contrôlent déjà l'essentiel des axes qui partent de Port-au-Prince. La route de Quinscoff a beau être escarpée, à la merci des éboulements, poussiéreuse, mal entretenue. De plus en plus d'Haïtiens l'ont emprunté ces derniers mois pour contourner le danger. Si Quinscoff tombe, il n'y aura plus d'alternative. Les institutions haïtiennes seront prises au piège et les habitants de cette zone n'auront quasiment plus aucun moyen d'en sortir.
Vincent Souriau, RFI, 22h08 à Berlin. On part maintenant pour Berlin, où se tient le 75e Festival international du film. Cette année, le jury est présidé par l'Américain Todd Haynes et 19 films au concours pour l'Ours d'Or. Deux réalisatrices portent les couleurs de la France, Léonore Serrail et Lucille Adialovic. Lucille Adialovic, on va se pencher sur son nouveau film, La Tour de Glace, qui fait le portrait d'une jeune orpheline qui tombe sous la coupe d'une star de cinéma incarnée par Marion Cotillard. Elisabeth Lequéré.
Christina, une star colérique et exigeante, tourne La Reine des Neiges, adaptation du célèbre conte d'Andersen. Elle n'épargne personne sur le plateau où chacun sait bien qu'elle est à l'image de son personnage, un cœur glacé, caché sous une beauté marmoréenne. Mais voilà que la diva, incarnée par Marion Cotillard, se prend soudainement d'affection pour une jeune figurante.
Il y a un rapport de fascination, de tentative de domination aussi, et puis d'une certaine violence. C'est une femme que je voyais tomber dans la fascination qu'elle a pour une autre personne qui lui rappelle qui elle a pu être quand elle était enfant. Et c'était assez intéressant d'expérimenter ça.
Ce récit d'emprise résonne avec l'époque, mais Lucille Adialilovic lui offre les atours d'un conte de fées à l'ancienne, avec paillettes et flocons de neige en coton. Un conte de fées où l'ogresse, finalement, ne serait pas celle qu'on croit. Elisabeth Lequéré, Berlin. RFI.
Et le 75e Festival international du film de Berlin se tient jusqu'à dimanche prochain, RFI 22h10 à Paris.